Il est 8h sur Europe 1, la suite de la matinale week-end avec Anthony Favalli.
C'est Jean-Pierre Elkabbach, Elie Tenenbaum, directeur des études de sécurité à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. À 8h20, ce sera l'heure de Face à Bigot et de tous les débats d'actualité. Mais avant de démarrer notre programme, l'essentiel de l'info. À la une, Marioupol, dévastée, ville martyre en Ukraine. On vous parlera ce matin des dégâts causés par l'armée russe et des derniers bombardements sur l'usine d'Azovstal, où sont piégés des centaines de civils avec des militaires ukrainiens, des civils qui attendent encore et toujours d'être évacués. La gauche, c'est lui, et il le fait savoir dans le journal du dimanche. Jean-Luc Mélenchon demande une nouvelle fois aux Français de l'élire Premier ministre à travers les législatives du mois de juin. Le leader de la France insoumise se dit par ailleurs optimiste quant à un accord avec les autres partis de gauche. Il dénonce enfin la radicalisation antisociale du chef de l'État. Et puis le troisième tour social promis par les syndicats en ce dimanche 1er mai, premier grand test social pour le chef de l'État Emmanuel Macron. Le pouvoir d'achat, les salaires, ça fera justement partie des revendications. Un 1er mai que les adversaires du président espèrent transformer en rendez-vous politique. Comment se prépare-t-il d'ailleurs pour ce rendez-vous? Nous le verrons dans cette matinale. Mais tout de suite, c'est l'heure de l'interview de Jean-Pierre Elkabbach.
Europe Matin Weekend.
Votre matinale info sur Europe 1.
Bonjour à tous. Encore l'Ukraine, et évidemment l'Ukraine. La menace répétée d'une troisième guerre mondiale nous concerne tous. Bienvenue Elie Tenenbaum, et bonjour. Est-ce qu'il faut prendre au sérieux la menace de Poutine ?
Il faut toujours prendre au sérieux un dirigeant d'une puissance nucléaire qui émet des menaces. Et bien entendu, il est rentré depuis le début de son invasion de l'Ukraine, le 24 février, dans ce qu'on appelle un dialogue dissuasif. Il envoie un certain nombre de signaux à ses adversaires ukrainiens, aussi, mais aussi aux adversaires de l'OTAN, aux Américains.
Ça veut dire que c'est une escalade qui peut être nucléaire ou la surenchère du chantage ?
Non, je ne pense pas que le terme de surenchère soit le plus adapté. En l'occurrence, oui, Vladimir Poutine cherche à conserver la maîtrise de l'escalade. Il considère que les enjeux du conflit, pour lui, sont de nature vitale. Et donc, ça lui donne un ascendant sur les Occidentaux, qui ont clairement identifié que l'Ukraine était en dehors de leurs intérêts vitaux. Et donc, pour ça, qu'il peut monter jusqu'aux extrêmes.
Donc, ce qu'il dit est possible.
Oui, c'est possible, surtout dans la situation dans laquelle il est aujourd'hui, où l'armée russe conventionnelle est en situation d'échec. Et donc, le met dans une situation où ses options militaires se réduisent.
C'est-à-dire qu'il peut utiliser des missiles à tête nucléaire tactique, ou il pourrait.
Alors, c'est une possibilité. La doctrine russe ne le prévoit pas dans une logique offensive. D'ailleurs, la doctrine russe ne prévoit pas de mener une guerre nucléaire et de la gagner. Maintenant, ils ne sont pas obligés de suivre, évidemment,
leur doctrine. C'est-à-dire qu'il y a des étapes
non conventionnelles,
conventionnelles, et ensuite...
Absolument. Et il y aurait des signalements forts qui seraient vraisemblablement utilisés avant de passer le seuil nucléaire, puisque ça aurait des conséquences politiques, stratégiques et même militaires considérables
pour la Russie. Et humaines. Est-ce que la radioactivité toucherait également la Russie?
Oui, absolument. S'il y avait un emploi d'une arme nucléaire, en fonction des vents, en fonction de la puissance de l'arme, de toute façon, il y aurait des retombées qui toucheraient les zones environnantes.
Et il toucherait qui en Ukraine? Une grande ville ou les militaires du Donbass?
Je pense que c'est bon, tout dépend des scénarios d'emploi. On n'en est pas là et je pense que c'est important de pas tirer une sonnette d'alarme trop en avant parce que évidemment ça peut en soi avoir des conséquences. Il faut être lucide. Il y a des options qui sont aujourd'hui ouvertes. Les options sont, à mon avis, surtout en cas d'une forme d'effondrement ou d'une reconquête ukrainienne vers l'Est qui pourrait pousser Vladimir Poutine finalement dans ses retranchements.
Donc il ne faudrait pas que l'Ukraine et les Occidentaux gagnent. Sinon, ça le pousserait à utiliser des armes nucléaires.
Disons que le risque, je pense que c'est normal que l'Ukraine cherche à reconquérir des territoires qui sont légitimement les siens et qui sont illégalement occupés aujourd'hui par la Russie. Maintenant, il y a un risque d'escalade dans la mesure où le signalement envoyé par Vladimir Poutine sur l'importance du contrôle de ces territoires est fort. Donc il y a un moment... voilà, une puissance nucléaire ne peut pas perdre une guerre, ou en tout cas, elle considère qu'elle doit avoir les moyens de mener cette carte joker.
Alors,
pour dire je ne perds pas.
Oui, faites gaffe, quoi. Mm. Et on a les missiles pour ça.
Hein? Ce qui n'est pas la même chose que la mise en échec de la Russie, ce qui ne provoque pas directement une ascension aux extrêmes. Il pourrait être dans la situation d'une incapacité de poursuivre son offensive dans le Donbass, ce qui est le cas. La manière dont on a aidé les Ukrainiens jusqu'à présent, on peut continuer à les aider, peut le mettre en échec de manière persistante pour ensuite ouvrir une voie diplomatique sans pour autant provoquer un risque d'escalade.
D'autant plus que la Russie aurait perdu un quart de sa force militaire dont elle disposait avant le début de l'invasion de l'Ukraine. Elle aurait perdu, d'après ce que dit la presse américaine, 3000 tanks, drones, avions, hélicoptères, sans compter les humains. Vous parlez, ou nous parlons, sans catastrophisme, encore une fois, de la possibilité ou de l'éventualité d'une troisième guerre mondiale. D'abord, est-ce que la Russie a déclaré la guerre ?
Non, la Russie n'a pas déclaré la guerre. Ils ont annoncé une opération militaire spéciale. Il n'y a pas de mobilisation générale. Il n'y a pas de déclaration de guerre, a fortiori.
C'est une guerre qui ne respecte pas la légalité internationale. Une guerre dehors la loi.
De toute façon, elle ne respecte pas la légalité internationale puisqu'il s'agit d'une guerre d'agression non provoquée. Il n'y a pas de légitime défense qui vaille. Et tous les arguments invoqués par la Russie pour mener son opération militaire, aujourd'hui, ne tiennent pas la route.
Est-ce qu'aujourd'hui, alors qu'on écoute les télévision russe, en Russie, on parle de guerre.
Non, le terme de guerre, pour l'instant, est banni, même si on le voit réapparaître progressivement par rapport à ce qui était le cas au cours du mois de mars et du début du mois d'avril. Il commence à réapparaître et on sent que progressivement, le Kremlin cherche à préparer sa population à l'annonce effective d'une guerre, voire d'une mobilisation supérieure.
Il le fera peut-être le 9 mai, avec le défilé sur la Croix Rouge, sur la Place Rouge.
Ça pourrait faire partie des annonces à l'occasion, effectivement, d'un moment de rassemblement du peuple russe, comme le défilé de la victoire.
Mais il
ne
pourra pas dire « on a gagné ».
Il pourra brandir sans doute des victoires limitées, la prise de Mariupol, les avancées sur le Donbass, qu'il cherchera évidemment à mettre en avant, mais non, il sera loin, loin de la victoire qui avait été espérée.
Au passage, Eli Tannenbaum, pourquoi parle-t-on de guerre mondiale ? Alors qu'il s'agit d'une guerre entre la Russie et les Occidentaux, j'ai envie de dire pour le moment.
Pour l'instant, il s'agit même spécifiquement de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Les Occidentaux ne sont pas partis au conflit, même si certains parlent de belligérance. Ensuite, vu le statut de puissance nucléaire mondiale de la Russie, l'implication importante des États-Unis et d'autres membres du Conseil de sécurité, si vous voulez, vous avez 4 des 5 membres du Conseil de sécurité qui sont directement concernés par le conflit. La Chine, qui est le 5e, est tout de même impliqué, même si c'est dans une moindre mesure. Donc là, vous avez à partir de là des résonances mondiales, vous avez des sanctions qui ont une portée mondiale.
Et alors, vous l'avez dit.
Mais le terme de guerre mondiale me semble totalement erroné à ce stade.
Impossible, vous l'avez dit tout à l'heure. Les Européens, surtout les Américains, livrent massivement des armes. On a vu 33 milliards de dollars. C'est peut-être un tournant de la guerre, mais quand on livre des armes, Moscou dit encore ce matin, c'est de la provoque.
C'est un changement de pied des États-Unis qui a eu lieu cette semaine, de la décision de soutenir avec des armes offensives. Donc pour mettre effectivement, potentiellement, la Russie dans une situation de défaite.
Qu'est-ce qu'une arme offensive ? Est-ce qu'elles ne sont pas toutes offensives ?
Non, parce que vous pouvez avoir des armes létales, mais qui, sur le plan de l'utilisation tactique ou de niveau opératif, ne permettent pas une offensive. Si vous avez des missiles anti-chars, des missiles anti-aériens très courte portée, ça vous permet de stopper une attaque ennemie, donc de vous défendre, mais ça ne vous permet pas de reconquérir des territoires. Si vous avez de l'artillerie, des véhicules blindés, des chars d'assaut, des avions de chasse, là, vous pouvez repartir à l'offensive. Et donc, c'est la question d'une reconquête ukrainienne à laquelle se rangent les États-Unis, ce qui n'était pas le cas pendant les deux premiers mois du conflit.
Et à partir de quel type d'armes les Occidentaux peuvent être considérés comme des belligérants ?
la livraison d'armes en tant que telle ne constitue pas une belligérance en droit international. Soit vous êtes parti à un conflit, et dans ce cas-là, vous avez des forces qui combattent dans le conflit, soit vous n'êtes pas parti à un conflit, et il n'y a pas d'embargo sur les ventes d'armes en Ukraine, ou les cessions d'armes en Ukraine. Et donc,
c'est-à-dire qu'à condition de ne pas pénétrer dans les zones de combat en Ukraine, rien n'empêche de livrer toutes les formes d'armes et en quantité que l'on veut.
Sur le plan du droit international, non. Maintenant, il faut évidemment comprendre que ça a des conséquences stratégiques, que la Russie regarde ça de très près. Évidemment, elle peut décider d'anticiper sur davantage d'ingérence avec potentiellement
là,
des frappes
en
limite, Ukraine, voire au-delà.
Mais est-ce qu'on n'est pas déjà à la limite de l'ingérence ?
On est dans le soutien à un État qui est agressé, un soutien légitime et qui ne pose pas de problème en droit international, mais qui évidemment crée des tensions, et c'est bien normal, avec la partie adverse qui est la Russie. Ouais.
Kharkiv souffre, Mariupol souffre, on en a parlé tout à l'heure, beaucoup de villes souffrent. Mais pourtant, à Kiev, Kharkiv et d'autres villes, Lviv, les Ukrainiens pensent qu'ils peuvent gagner la guerre. Est-ce que ça, c'est une possibilité face à une puissance qui est nucléaire en face d'elle et qui combat ?
Sur le plan militaire, c'est pas une possibilité tout de suite. L'armée ukrainienne est une armée qui est structurée pour la défensive en brigade territoriale. Mais compte tenu de l'attrition, c'est-à-dire de l'usure des forces russes d'une part, de la capacité potentiellement de se régénérer des forces ukrainiennes d'autre part avec le soutien, sur le plan militaire, c'est quelque chose qui est envisageable. Et d'ailleurs, les Américains disent oui, on y croit, alors qu'ils n'y croyaient pas finalement le 24 février parce que l'armée ukrainienne a montré ses capacités. Maintenant, encore une fois, il y a la question du franchissement de seuil, du conflit qui pourrait basculer vers quelque chose d'autre et là qui changerait à nouveau les enjeux et potentiellement bloquerait l'efficacité d'une reconquête.
Vous êtes à la fois mesuré et en même temps vous pouvez inquiéter étant donné ce qui est en train de se passer. Mais le président Biden, quand il dit les États-Unis n'attaquent pas la Russie, ils aident l'Ukraine. Ça veut dire que les États-Unis aident l'Ukraine à frapper la Russie, ou en tout cas l'affaiblir. D'ailleurs, le mot est utilisé par les Américains.
Ils aident d'abord l'Ukraine à se défendre d'une agression russe. Ensuite, aujourd'hui, ils aident l'Ukraine à reconquérir des territoires ukrainiens perdus, conquis illégalement par la Russie. Maintenant, évidemment, ça a des conséquences, surtout dans la mesure où vous avez quelque chose comme 70% des forces russes disponibles qui sont en Ukraine. C'est-à-dire que battre les forces russes présentes en Ukraine, ça veut dire affaiblir considérablement la Russie. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils ont dit. De sorte qu'elle ne puisse plus reproduire ce type
d'attaque. Et puis en même temps, c'est formidable pour le président Biden. Il est à cause de la guerre, ou grâce à la guerre, populaire aux États-Unis.
Oui, en tout cas, je pense qu'il a permis d'effacer un petit peu le souvenir de la retraite de Kaboul, de l'Afghanistan, et d'un président qui pouvait apparaître comme plus faible qu'il n'est réellement sur les questions internationales.
Tout à l'heure, nous avons dit que Poutine peut utiliser des armes non conventionnelles. Dans ce cas, quelle est la riposte de l'OTAN ? Qu'est-ce qu'on fait s'il lance un missile tactique contre quelqu'un ?
Une arme nucléaire utilisée contre l'Ukraine, si c'était le cas, causerait d'abord un scandale et une rupture du seuil nucléaire considérable. Avec des conséquences politiques très importantes. Il y aurait vraisemblablement une réponse de l'OTAN qui serait décidée sans doute en cercle restreint par ce qu'on appelle le P3, les trois puissances nucléaires de l'OTAN, la France, les États-Unis et le Royaume-Uni. Et cette réponse ne serait sans doute pas d'abord de nature nucléaire, puisque l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN, elle n'est donc pas couverte par les garanties.
Donc il est tranquille, Poutine.
Pas forcément, parce que vous
aller
avez
taper sur
pas forcément
Kiev parce ou que vous une avez ville
non, parce qu'il
ou une zone militaire. Et nous, on regarde parce qu'on ne peut pas s'engager. Mais je ne demande pas qu'on s'engage, mais
parce que il pourrait y avoir un engagement conventionnel. Les Américains ont notamment des moyens de rétorsion conventionnels. Il y aurait une réponse politique considérable, un isolement encore plus fort de la Russie qu'il ne l'est déjà. Il y aurait un coût considérable pour la Russie par rapport aux gains militaires effectifs d'une telle frappe qui ne serait pas du tout évident.
Ça veut dire que La guerre a un coût élevé, comme vous dites, pour le système de Poutine. D'ailleurs, il est en train d'écarter des généraux et en même temps de destituer un certain nombre d'oligarques qui étaient ses amis. À terme, la chute, elle est possible de Poutine ?
Elle est toujours possible. Elle dépend aujourd'hui, elle est entre les mains essentiellement du peuple russe, de la société russe. Voilà, l'histoire de pays sous sanctions lourdes, comme c'est le cas de la Russie aujourd'hui, n'offre pas forcément beaucoup d'optimisme sur une chute à court terme du régime.
La guerre peut durer.
Ah, la guerre peut durer pendant longtemps.
Elle va durer.
C'est probable.
Merci d'être venu, Eli Tannenbaum. À bientôt, sans doute. Et nous, Anthony, à demain.
La matinale se poursuit. Merci Jean-Pierre, merci à votre invité Eli Tannenbaum. Demain, Jean-Pierre, vous recevrez Guillaume Larrivé, député Les Républicains de Lyon. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité, c'est avec Elisa Lukavski.
De violentes explosions ont été entendues cette nuit à Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine, pilonnée depuis des semaines par l'artillerie russe. Hier, ces bombardements ont fait au moins un mort et plusieurs blessés, selon l'administration militaire régionale de Kharkiv. Des négociations suspendues alors qu'un accord en vue des législatives semblait se dessiner à gauche hier entre la France insoumise, le PS et Europe Écologie Les Verts. Les socialistes ont suspendu leurs échanges. Malgré leur désaccord avec leur partenaire, Jean-Luc Mélenchon s'est dit optimiste sur un accord d'ici demain dans une interview accordée au journal du dimanche. Match décisif pour les filles du 15 de France. Cet après-midi, les Bleus invaincus depuis le début du tournoi des Six Nations accueillent l'Angleterre, équipe également invaincue. En jeu pour les deux formations, le Grand Chelem, une équipe d'Angleterre qui s'annonce redoutable. Les Françaises ne l'ont pas battue lors de leurs 9 derniers affrontements.
8h16, la matinale week-end continue dans un instant face à Guillaume Bigot. Ce matin, ce sera Guillaume Perrault, rédacteur en chef du Figaro Vox. A tout de suite.
Votre matinale info sur Europe 1.
Anthony Favalli.
De retour dans votre matinale week-end à 8h21 qui continue avec le face-à-face. Guillaume Bigot, politologue, bonjour.
Bonjour Anthony.
Face à Guillaume Perrault, rédacteur en chef du Figaro Vox. Une demi-heure avec vous messieurs pour débattre des grands thèmes de l'actualité de ce samedi 30 avril. Ce vendredi à Mariupol, des bombardements ont retenti sur l'usine d'Azovstal, ce complexe sidérurgique où sont piégés des centaines de civils avec des militaires ukrainiens, ce qui met évidemment à mal les opérations d'évacuation annoncées jusque-là. Le récit de ce qui se passe sur place dans cette ville portuaire dévastée est fait par Marie Conan.
Quand on circule dans la ville de Mariupol, les traces laissées par les bombardements sont visibles à chaque coin de rue. Ces bâtiments sont calcinés, ce tramway écrasé. Cet impact laisse imaginer toute la violence des frappes. Dernièrement, c'est le port de la ville qui a été dévasté, conquis par les forces russes. Il ne reste à ce jour qu'un seul lieu encore contrôlé par les Ukrainiens, cette usine de métallurgie.
Le principal centre de regroupement des bataillons nationalistes est l'usine Azovstal, où les nationalistes sont complètement coincés. Et maintenant, la question du retrait des civils est en train d'être réglée. Femmes, enfants, personnes âgées, ces civils devraient être libérés.
Pourtant, au loin, on peut toujours entendre le bruit sourd des bombardements. Des explosions qui proviennent justement de cette usine Azovstal, rendant l'évacuation des quelques centaines de civils restants impossible. Le président ukrainien craint désormais que cette guerre d'usure, utilisée ici à Mariupol, ne se reproduise désormais dans l'est de l'Ukraine.
Si les envahisseurs russes sont capables de réaliser leur plan, même partiellement, alors ils ont suffisamment d'artillerie et d'avions pour transformer tout le Donbass en pierre, comme ils l'ont fait avec Mariupol.
La bataille pour la conquête du Donbass, l'objectif principal des Russes en Ukraine, a débuté depuis plusieurs jours.
Guillaume Bigot, Mariupol, c'est finalement le symbole de ce que pourrait être le Donbass, bientôt cette région de l'est de l'Ukraine, c'est-à-dire un champ de ruines.
Je pense que le Donbass sera pire. Le Donbass sera pire pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on retrouve au Donbass des zones industrielles urbaines. Il y a deux villes qui sont les villes clés, Severodonetsk et Kramatorsk, qu'on peut peut-être voir sur la carte. On ne les voit pas, mais elles sont entre, disons, Kharkiv et Izium. Là, en ce moment, à l'heure où on parle, c'est gros comme un département français. Il y a peut-être 50 000 Ukrainiens, 50 000 Russes. Enfin, c'est une concentration de troupes, de moyens de feu qui est considérable. Donc on va avoir à la fois ce genre de situation, c'est-à-dire l'écrasement par l'artillerie de villes qu'ils ne veulent pas se rendre. On a aussi des forces ukrainiennes qui sont retranchées et bien retranchées depuis 7-8 ans maintenant. Une concentration de feu. Et puis on a aussi une zone plus ouverte. C'est-à-dire il va y avoir des mouvements de chars, plus de bombardements, etc. Or, les deux parties, aucune des deux parties ne peut perdre. Enfin, perdre le Donbass, ça voudrait dire pour l'Ukraine, laisser finalement le pays à découvert. Et pour les Russes, évidemment, c'est pas possible non plus, puisqu'ils sont, ils ont reconcentré leurs forces autour de ça. Alors, une fois qu'on a dit ça, évidemment, ça va être très, 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 vraiment effarant. Est-ce que on peut dire que c'est une méthode russe ? Oui et non. On sait que l'armée russe n'a pas nécessairement de fantassins au sol aussi bien entraînés que les armées occidentales, ça c'est vrai. On dit de l'armée russe, et c'est vrai aussi, que c'est une artillerie roulante. Celui qui a été nommé en charge des opérations, c'est un général qui a libéré, entre guillemets, libéré Alep, c'est-à-dire qui a libéré un champ de ruines, c'est vrai. Mais d'un autre côté, qu'est-ce que nous avons fait, nous, à travers un proxy, c'est-à-dire une armée par laquelle on se battait par procuration, c'est-à-dire l'armée kurde, à Raqqa ou à Mossoul? En réalité, au XXIe siècle, la puissance de feu est telle que si vous voulez prendre une ville avec des fantassins au sol, soit vous acceptez des pertes gigantesques dans votre camp, soit vous rasez tout avec des bombardements. Donc les armées occidentales ne sont pas mieux que les armées russes, que l'armée russe à cet égard. Il n'y a qu'une seule technique, si vous ne voulez pas perdre trop d'hommes, eh bien vous rasez. Mais quelle libération, entre guillemets, puisque vous libérez un champ de ruines.
Alors néanmoins, Guillaume Perrault, l'offensive russe dans le Donbass a pris du retard, c'est ce qu'affirme en tout cas le Pentagone, la défense américaine. Elle nous dit qu'ils sont loin d'avoir fait la jonction entre le sud et l'est du pays.
Oui, les autorités russes sont souvent présomptueuses au début d'une guerre qu'elles déclenchent elles. Ça s'est vu plusieurs fois dans l'histoire russe. Je vais vous raconter un épisode. Pendant la guerre de Crimée, juste à côté, dans les années 1850, le général qui commandait à Sébastopol, avant la bataille de Sébastopol, face aux Français et aux Anglais, était si sûr de gagner qu'il avait convié la bonne société de Sébastopol à assister à la bataille sur les hauteurs de la ville. Et les Français et les Anglais ont gagné contre les Russes. Ça a été une stupeur, tellement le tsarisme était confiant dans la force de son armée. Ce n'est pas un exemple isolé. Et là, de la même façon, on a eu une attitude présomptueuse de Poutine, et je ne vais pas redire combien il s'est trompé sur l'évaluation des forces en présence, le moral de l'adversaire, etc. Et donc, que font-ils ? Assez logiquement, ils se recentrent, les Russes se recentrent sur leurs atouts traditionnels, c'est-à-dire la puissance de feu, et d'autant plus qu'on a vu des carences spectaculaires. D'abord, un manque d'hommes qui a étonné tous les observateurs. Le rouleau compresseur russe, c'est l'image qu'on avait, c'est ce nombre de fantassins colossales qu'on a tous appris dans les livres d'histoire pendant la Deuxième Guerre mondiale. Bon, bah là, on voit que c'est fini. C'était l'époque de l'armée rouge soviétique. Elle est derrière nous. Il n'y a plus du tout la même échelle d'effectifs. Donc, manque d'hommes, morale déficient, corruption de grande ampleur au sein de l'armée russe. Et Thierry Volton, qui est un grand spécialiste des régimes post-communistes, a raconté qu'en Biélorussie, il y avait eu des soldats en nombre important qui avaient siphonné une partie des stocks d'essence de leurs unités pour les revendre au marché noir. Voilà, c'est de ce niveau-là, si vous voulez, qu'il y a une corruption généralisée à tous les niveaux dans l'armée russe. Donc, il y a un manque d'encadrement et des problèmes en matière de maintenance et de logistique.
Est-ce que c'est suffisant pour laisser penser aux Ukrainiens qu'ils peuvent gagner cette guerre, avec bien sûr toute l'aide qu'on connaît des pays occidentaux qui envoient des armes et des chars et des avions et de tout ce qu'ils peuvent aider en tout cas
Il y a un sens du sacrifice très impressionnant du côté des Ukrainiens. On a eu dans le Figaro un reportage d'un de nos envoyés spéciaux qui racontait qui montrait l'exemple de quelqu'un qui se définit comme cosaque et qui racontait que quand il a dû abandonner son village dans cette région, il a pris de la terre qu'il est parti avec lui, et il a mis cette terre ensuite dans ses chaussures au moment de se battre, pour dire je vais récupérer ma terre. Vous voyez, on a une vision très, très traditionnelle de la guerre avec des gens qui sont vraiment prêts à se sacrifier pour défendre leur sol et leur famille, côté ukrainien. Donc ça, c'est très impressionnant, c'est évidemment leur atout numéro un. L'atout que vous rappelez, est évident, qui est l'aide massive, non seulement en matériel, mais en renseignement satellitaire, c'est très important, des Américains et des Occidentaux en général. Mais comme l'a dit Guillaume, comme les Russes ne peuvent pas se permettre de perdre de leur côté, le risque, c'est une guerre d'usure sans vainqueur réel, avec une ligne de front qui pourrait se fixer. Bon, c'est une hypothèse parmi d'autres.
Mais il faut insister sur un point, c'est que les guerres qu'on a livrées depuis 1991... même l'armée française a livré d'ailleurs depuis 1945, sont des guerres face auxquelles on avait des gens... Il y avait une asymétrie de moyens militaires considérable. On avait la maîtrise du ciel, on avait la maîtrise de l'information. En Afghanistan, quand vous aviez deux AK-47 qui étaient détectés, on envoyait 8 tonnes de bombes. Voilà, c'est ça le ratio, si vous voulez. Donc les autres en face n'avaient aucune chance. Là, c'est la première fois qu'on a une guerre de très haute intensité. On va avoir deux adversaires, deux forces combattantes qui vont avoir des moyens de renseignement, des moyens satellitaires, des drones, une puissance de feu considérable. Et donc, vous voyez, ça change complètement la donne. Et face à ça, quand vous avez des gens déterminés, on l'a vu à Raqqa, on l'a vu à Mossoul, on l'a vu à Alep, qui tiennent une ville... Aujourd'hui, ça va être rasé la ville au sol, c'est la seule issue.
Il est 8h30 dans votre matinale le week-end. On va marquer une courte pause, le temps du rappel de l'actualité. C'est avec Elisa Lukavski.
Le Pentagone accuse Vladimir Poutine de dépravation et de cruauté pour la façon dont les forces russes se comportent en Ukraine. Ces dernières sont accusées d'assassinats de civils, y compris d'enfants. Le porte-parole du ministère américain de la Défense, John Kirby, a déclaré à propos du président russe « Je ne connais pas son état psychologique, mais je pense qu'on peut parler de sa dépravation ». Fin de citation. C'était déjà le cas avant l'élection présidentielle, ça n'a pas changé. Le pouvoir d'achat est toujours la préoccupation numéro 1 des Français pour 46% d'entre eux, ce qui ressort d'un sondage CSA pour le journal du dimanche. Ce thème arrive devant la guerre en Ukraine et la santé, et bien loin devant l'emploi ou le terrorisme qui inquiète moins d'un Français sur 10. Et puis du sport avec la 35e journée de Ligue 1 et le champion de France, le PSG, tenu en échec sur la pelouse de Strasbourg. Après une entame catastrophique, les Parisiens s'en sont une nouvelle fois remis à Kylian Mbappé, auteur de 2 buts et d'une passe décisive pour revenir dans le match, insuffisant pour s'imposer. 3-partout, score final.
Alors messieurs, autour de cette table, Guillaume Bigot et Guillaume Perrault, je vous propose de continuer à parler de la guerre en Ukraine avec cette séquence à peine croyable à la télévision d'État russe, des analystes et des commentateurs qui évoquent une probable 3e guerre mondiale ainsi qu'une attaque nucléaire. Certains proposent même d'utiliser des missiles Sarmat qui peuvent porter jusqu'à 10 têtes nucléaires et de raser des pays comme la France et la Grande-Bretagne. Regardez, écoutez cette séquence, elle fait vraiment froid dans le dos.
Или мы проигрываем на Украине. Или начинается Третья мировая. Лично я считаю наиболее реалистичным путь Третьей мировой. Ну, потому что, зная нас, зная нашего руководителя Путина Владимира Владимировича, вот самое невероятное, что в конце концов все это закончится ядерным ударом, мне представляется все же более вероятным, чем вот такое развитие событий. К ужасу моему, с одной стороны, с другой стороны, к пониманию, что, ну что, значит так.
Знаешь, меня... Но мы-то в рай.
Да.
Меня... Они просто сдохнут.
Alors voilà, je vous fais en bref ce que dit cette dirigeante de Russia Today dans cette émission de télévision russe, mais qui explique voilà, qu'une 3e guerre mondiale est tout à fait probable au vu du leader russe que représente Vladimir Poutine. Elle parle d'une potentielle guerre nucléaire et on a un autre intervenant dans cette émission qui raconte également que finalement, des pays comme la France ou la Grande-Bretagne ne sont à peine qu'à 200 secondes de l'arme nucléaire russe et que voilà.
Il a l'air assez exalté, on dirait un personnage dépossédé de Dostoïevski. Ouais.
Complètement exalté.
On ira tous au paradis, etc. Ouais.
Et la question que je voulais vous poser, est-ce que véritablement on a une 3e guerre mondiale qui approche aujourd'hui, ou est-ce qu'on a plutôt le 9 mai qui approche, qui est une date importante pour les Russes, c'est-à-dire la victoire de la Russie contre l'Allemagne nazie? Est-ce que finalement ils sont en train de bomber le torse dans ces émissions de télé parce qu'on approche d'une grande fête nationale, ou est-ce que vraiment la 3e guerre mondiale est sur le point d'arriver?
Bon, la réponse est un peu dans votre question. On voit bien qu'il y a une montée aux extrêmes verbales. Mais pour bien comprendre ce qui se passe à Russia Today, sur la première chaîne, c'est vraiment très regardé par les Russes. Donc on peut considérer que ces gens sont des porte-parole du gouvernement. Alors attention, porte-parole du gouvernement, ça ne veut pas dire qu'ils disent ce que le gouvernement pense. Ils disent ce que le gouvernement veut qu'ils disent.
Ce sont des propagandistes.
Voilà. Bien sûr, à destination de la population russe, pour souder le moral des troupes. Et surtout, parce qu'ils savent qu'on va en parler. D'ailleurs, Que fait-on ce matin? Sinon, on parlait, ça a fait le tour des réseaux sociaux, le monde occidental est tétanisé, et c'est bien l'objectif. L'objectif, c'est de la guerre psychologique, si vous voulez, c'est de faire mollir les opinions occidentales et diviser les opinions occidentales. Et à cet égard, c'est en partie déjà réussi. Mais ça vient après deux séquences. Une séquence américaine, une séquence russe. La séquence américaine, qu'est-ce qu'elle dit? On a le secrétaire d'État américain qui se rend à Kiev, et il dit, grosso modo, on va les soutenir jusqu'à la victoire et on va affaiblir la Russie, on va la saigner en quelque sorte jusqu'au point où elle ne pourra plus recommencer. Et on a le secrétaire à la Défense qui ajoute « Nous pouvons gagner cette guerre ». Et puis il se coupe, il se reprend, il dit « Non, ils peuvent gagner cette guerre ». Autrement dit, voilà, on est les Américains d'une certaine façon, les Anglo-Saxons, probablement l'OTAN, on est déjà dans la guerre, en réalité. On est déjà parti dans cette guerre. Là, il y a vraiment une montée aux enchères. Du côté russe, la riposte est rapide. Lavrov et Poutine qui disent « si vous allez, si vous passez un certain point, voilà ». Mais quel est ce point? Toute la question est là. Et je pense qu'autant le scénario de guerre mondiale, c'est-à-dire ce qu'on vient d'entendre, ils vont tirer les premiers, ils vont raser Berlin, Londres, Paris, c'est complètement irréaliste. Autant le fait, s'ils sont enlisés, de tirer... Je sais pas, comme on tire un coup de semonce, par exemple, une arme nucléaire tactique au-dessus de la mer Noire ou même sur le théâtre d'opération, utiliser des armes chimiques, etc. Autant ça, c'est annoncé à l'avance. Et je pense qu'on aurait tort de prendre ça à la légère. Alors, soit les Américains ont des informations que nous n'avons pas et qui laissent à penser que, de toute façon, Poutine est très isolé et vraiment au bord du plongeoir. Soit, deuxième solution, là, on prend des risques inconsidérés.
Cette séquence qu'on a entendue à la télévision russe, c'est l'illustration de l'état d'esprit des Russes ou c'est représentatif donc, de la population ou plutôt de ceux qui mènent la propagande en Russie?
D'abord, je voudrais rappeler que pendant la campagne présidentielle de Poutine en 2018, il n'avait pas fait grand-chose, mais il avait mis en avant la rénovation de l'arsenal nucléaire. Et déjà à l'époque, il y avait des reportages à la télévision publique russe qui disaient très sérieusement que grâce à la nouvelle arme nucléaire dont ils disposaient, ils pouvaient déclencher un raz-de-marée sur New York. Ça a été dit textuellement et ils en étaient fiers.
Ça ne vous surprend pas tant que ça finalement, c'est ça. Donc, que vous êtes en train
voilà.
de dire.
Voilà, c'est-à-dire que ça fait des années, bon, on ne prête pas tous les jours une grande attention à ce qui se dit à la télévision russe, on le fait davantage depuis la guerre en Ukraine, mais ça fait des années qu'il y a ce...
Il y a un contexte, il y a un climat.
Il y a ce côté exalté et de radical dans les présentations. Ça fait un peu Corée du Nord, si vous voulez, mais ça fait des années que ce ton est employé à la télévision russe. Ça, c'est ma première remarque. Ensuite, l'ironie tragique de la situation, je voudrais quand même rappeler, c'est que les Ukrainiens, au moment de leur indépendance, ils avaient beaucoup d'armes nucléaires sur leur sol. Une partie de l'arsenal soviétique a été récupérée, était sur le sol ukrainien quand ils sont devenus indépendants en 91, et ils ont accepté de le rendre aux Russes sous la pression américaine. Il y a eu un accord en 94 qu'on appelle le mémorandum de Budapest, dont les Américains et les Britanniques étaient les garants, avec comme contrepartie que les Russes s'engageaient à respecter l'intégrité territoriale de l'Ukraine, ce qui mérite quand même d'être rappelé. Ils doivent se demander aujourd'hui, se mordre les doigts d'avoir eu cette attitude conciliante à l'époque. Alors sur le fond, il y a en effet les Russes n'ont pas besoin des Américains pour être paranoïaques. Les autorités russes, elles le sont naturellement. Elles sont naturellement paranoïaques. Mais toute prise de position occidentale, surtout si elle est un peu ferme, et nourrit cette paranoïa qui préexiste même. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire le procès des Américains dans cette affaire, puisque la paranoïa russe, elle préexiste. Elle est consubstantielle à la vision du monde des autorités russes.
Et c'est précisément la raison pour laquelle il est dangereux de l'alimenter.
Oui, mais si on pousse l'argument, que je comprends, jusqu'au bout, on ne fait plus rien. Parce qu'on ne prend plus aucune, on n'envoie plus aucune marque de fermeté, puisque tout peut alimenter la paranoïa de l'ours blessé, si vous voulez.
Alors, oui, mais là, on peut défendre l'Ukraine sans prétendre ramener la Russie quasiment
alors,
au ménage.
Non, mais là où je vous rejoins, c'est qu'en effet, aider l'Ukraine, c'est une chose, mais tenir un discours martial, comme le font désormais les Américains, en annonçant leur ambition, en affichant leur ambition d'affaiblir au maximum l'armée russe, et par ailleurs, en ne prenant aucune initiative diplomatique, ce que
réclamait des gens aussi éminents que Maurice Gourdeau-Montagne, par exemple, qui est l'ancien Sherpa de Jacques Chirac, qui a fait une tribune très intéressante dans le Figaro, en disant « mais les Russes attendent un geste des Américains, parce qu'ils sont dans une logique de guerre froide, de nostalgie du condominium Washington-Moscou, et donc ils attendent une reconnaissance, il y a une grande part de passion dans tout ça, et on peut tout à fait être ferme, comme on l'est à juste titre en aidant les Ukrainiens, et essayer d'aménager une issue honorable à l'adversaire. La diplomatie sert à ça. Et on peut s'inquiéter qu'il y ait uniquement le premier terme qui soit
ne pas laisser d'issue à son adversaire, c'est
voilà,
extrêmement dangereux.
Retour en France, on va parler des grandes manœuvres politiques qui ont lieu en ce moment en vue des élections législatives. Il y a un homme politique qui demande aux Français de l'élire Premier ministre. Je pense que vous savez de qui je parle. Je parle de Jean-Luc Mélenchon, leader de la France insoumise, qui décrit au journal du dimanche sa stratégie pour remporter les élections législatives et partir à l'assaut de Matignon. Rien que ça. Elisa Lukavski, on va voir ça avec vous justement. Il dénonce, Jean-Luc Mélenchon, la radicalisation antisociale d'Emmanuel Macron.
L'objectif de Jean-Luc Mélenchon, que les Français élisent des députés d'Union populaire pour qu'ils deviennent Premier ministre. Il mise pour cela sur des négociations avec la gauche. Je suis optimiste, je pense que nous allons trouver un accord. Nous aimerions que cela soit réglé d'ici demain. Il veut que sous l'impulsion de la France insoumise, la gauche retrouve de sa superbe. Je souhaite que les partis de gauche restent groupés. Il faut qu'ils sortent de la loose, mais pour certains de nos partenaires, gagner, c'est une chimère. Ils ont la culture permanente de la défaite, a-t-il déclaré. Le leader de la France insoumise qui s'en prend aux figures de la gauche et notamment à François Hollande qui craint une disparition du PS en cas d'accord avec lui. François Hollande est totalement has-been alors que le train de l'histoire passe, il reste à quai. Un entretien où il détaille également ses premières mesures. S'il devenait Premier ministre, blocage des prix des carburants et des produits de première nécessité, hausse du SMIC et des minima sociaux. Premier ministre sinon rien. En tout cas, quand on lui demande s'il sera candidat au législatif, eh bien, il botte en touche. Regardez ce qu'il a déclaré. On verra. Je suis à part. Statut spécial. Fin de citation.
Statut spécial. Merci Elisa Lukavski pour ces précisions. Est-ce qu'on pourrait résumer ça, Guillaume Bigot, par la gauche, c'est moi ? Enfin, c'est Jean-Luc Mélenchon, en l'occurrence. La gauche, c'est lui.
Déjà, la République, c'est moi. Bien sûr, maintenant, c'est la gauche, c'est moi. Mais ce qui est sûr, c'est que la démocratie, c'est pas lui. La Constitution non plus, parce qu'on peut pas être élu Premier ministre, même si c'était un élément de langage marketing, de marketing politique. Peut-être un petit commentaire pour commencer. L'effet de contraste entre ces guéguerres absolument picrocolines et dérisoires sur l'échiquier politique national, juste après avoir parlé de manière à moitié sérieuse d'un risque de guerre mondiale, de troisième guerre mondiale. Bon, mais voilà. Revenons donc dans nos guéguerres et dans notre théâtre d'ombre. Évidemment, sa tête a gonflé. Il y a une dimension de vengeance parce que ça fait très longtemps qu'il est en guerre contre l'appareil socialiste. À l'intérieur du parti, il pesait et il y a une obsession à gauche, c'est le contrôle de l'appareil. C'est quand même une thématique très très forte dans cette culture politique.
Il faut qu'il sorte de la loose, dit-il en parlant des partis de gauche.
C'est ça, loose à laquelle il a évidemment largement pris sa part. En tout cas, celle du Parti Socialiste, parce qu'à l'extérieur, ça a plutôt bien marché. Le problème qu'il a, il y a le problème du Parti Socialiste d'un côté, et il y a de l'autre le problème de LFI et de la gauche en général. Le problème du Parti Socialiste, c'est que là, il y a un choix. C'est-à-dire qu'ils veulent garder un maximum de circonscriptions, parce que s'ils n'atteignent pas 15 députés, ils n'auront même pas de groupe, parce qu'ils peuvent ne pas avoir du tout de députés et plus aucun financement, et là, c'est le plongeon total. Donc on voit bien à quelle vitesse les digues idéologiques sautent. Ils nous ont expliqué la main sur le cœur que, au grand jamais, ils allaient s'allier avec quelqu'un, le grand Satan qui allait couler l'Europe, le grand Satan qui faisait fi de la laïcité et qui s'apprête d'ailleurs peut-être à faire élire un tas à bouaf. Et je vous annonce à l'avance que si Taha Bouaf est élu à Vénissieux, ça sera l'équivalent...
Voilà, qui est journaliste et...
Et porteur de valises des islamistes, oui. Donc ça sera l'équivalent de l'élection des premiers élus du Front National dans les années 80-83, je crois, à Dreux. C'est-à-dire qu'on va, ça sera vraiment à noter d'une croix blanche dans l'histoire de la démocratie française. Refermons la parenthèse. Donc on a le problème du Parti Socialiste. Est-ce qu'ils vont essayer de se maintenir un minimum? Où est-ce qu'ils vont? Et pour ça, il faut qu'ils acceptent la domination de LFI. Bon. Donc, en fait, dans tous les cas, c'est soit la Bérézina. Il n'y a pas trop le choix. En ce qui concerne... Et d'ailleurs, Olivier Faure a dit, ceux qui ne sont pas d'accord partaient tout de suite à La République En Marche. Donc, vous voyez, le choix, c'est La République En Marche ou, finalement, l'écrasement sous LFI. Alors... Et pour Jean-Luc Mélenchon et pour la gauche, le problème, ça va être d'incarner à eux seuls l'opposition Pourquoi ? Alors, ils vont évidemment jouer sur le fameux barrage. Au deuxième tour, un désistement contre le RN, c'est possible. Mais par contre, il pèse tout mouillé environ 30%. Donc 30%, faire l'opposition à eux seuls, ça va être un peu compliqué.
Est-ce que Jean-Luc Mélenchon va pouvoir réunir la gauche ?
En tout cas, il a sûrement à l'esprit un mot célèbre d'un dirigeant communiste des années 20 qui a dit « Nous allons plumer la volaille socialiste ». Et il veut plumer le parti dont il est lui-même issu, puisque rappelons qu'il était le plus jeune sénateur socialiste de l'Essonne en 1986. Donc nous avons affaire à un vieil apparatchik socialiste hein, qui connaît très bien son ancien parti, qui veut régler ses comptes avec le parti avec lequel il a rompu aux alentours de 2005.
Et qui à l'époque était très gauche caviar, pour Maastricht, etc.
En tout cas, oui, alors il a évolué et il a eu, rappelons-le, un poste ministériel de second plan. Enfin, il était quand même dans le gouvernement Jospin aussi. Hein. Donc, ce n'est pas du tout quelqu'un qui sort de nulle part. Sur le fond, qu'est-ce qu'il veut faire ? Son modèle politique, c'est François Mitterrand. Il veut refaire à l'envers ce qu'a fait François Mitterrand dans les années 70, c'est-à-dire une alliance conflictuelle avec le Parti communiste, alors que lui, Mitterrand, était premier secrétaire du PS à partir de 71. Et à la faveur de cette alliance, Mitterrand a siphonné une partie des voix communistes. Et finalement, il a affaibli le parti qui, a priori, était le plus fort dans cette alliance, qui était le PC. Voilà.
Il essaie de faire la
manœuvre dans l'autre sens, c'est-à-dire repartir vers la radicalité. Et effectivement, les notables socialistes qui donnaient des leçons de morale à la droite depuis des années, matin, midi et soir, en disant « Attention, pas d'alliance avec le FN ou pas d'alliance avec le RN, c'est mal, il ne faut pas le faire », ils se ruent pour sauver leur circonscription.
Messieurs,
avec un homme qui a eu beaucoup de positions très discutables.
Il est 8h45 dans la matinale week-end, c'est l'heure du rappel de l'actualité avec Elisa Lukavski.
Autour des salaires. Voilà ce que demande Philippe Martinez, le patron de la CGT, dans les colonnes du Parisien de ce samedi, veille du 1er mai. Il espère une large mobilisation pour la traditionnelle journée internationale du travail. Une semaine après le second tour de la présidentielle, il souhaite interpeller l'exécutif sur les retraites, les salaires, mais aussi les exigences sociales et environnementales. Un Palestinien a été tué cette nuit lors d'affrontements avec les forces israéliennes dans le nord de la Cisjordanie occupée. L'homme âgé d'une vingtaine d'années a été touché à la poitrine lors d'une opération de l'armée israélienne. Ça s'est passé dans la localité d'Azoun. Un décès après une nouvelle journée de heurts entre Palestiniens et policiers israéliens sur l'esplanade des mosquées. Et puis du football avec la demi-finale retour de la Ligue des Champions entre le PSG et Lyon. À l'aller, les Lyonnaises, septuples championnes d'Europe, l'avaient emporté 3-2. Mais ce soir, à 21h, les Parisiennes joueront dans un Parc des Princes totalement acquis à leur cause. En jeu, une place en finale. Lyon qui vise une 10e finale en 13 ans.
Merci Elisa Lukavski. Emmanuel Macron, il n'a certainement pas envie d'une cohabitation avec Jean-Luc Mélenchon. En tout cas, il a investi cette semaine le terrain social. Il n'a pas arrêté, on l'a vu mercredi à Cergy, en région parisienne, dans les quartiers populaires. Et hier, il est allé cette fois dans les Hautes-Pyrénées pour s'adresser à une autre France, cette fois la France rurale. Ce reportage est signé Loïc Signor, Florian Paume et Valentine Leboeuf.
Moi, j'ai 3 filles et 4 petits. 4 petits enfants, qu'est-ce que vous voulez faire avec même pas 1000 euros par mois ?
Une réalité brutale à laquelle Emmanuel Macron est venu répondre. Dans ce village de 3000 habitants, le pouvoir d'achat est au cœur des revendications.
Les gens qui vraiment aujourd'hui ont du mal, tout en travaillant, à pouvoir finir les familles. Et ça, monsieur le président, moi je suis délégué syndical, je le vois tous les jours. Et donc on a vraiment un président qui s'occupe de tous les Français.
Dans cette commune rurale, la situation est également critique du côté des agriculteurs.
Moi, je suis sur une petite exploitation de 40 hectares. Je ne peux pas embaucher un salarié. Si mes prix pouvaient remonter et baisser les prix des carburants, le monde rural pourrait vivre différemment.
Mais à plus de 800 km de Paris, les habitants dénoncent la gestion d'un pouvoir trop centralisé.
Un peu trop sûr d'eux par rapport à nous. On le ressent, oui.
On aimerait bien qu'il y ait un petit peu de décentralisation, que ça revienne un petit peu partout et non jamais là-haut.
Emmanuel Macron a annoncé préparer un paquet de mesures sociales dès l'été. Le président l'a réaffirmé pendant son déplacement. Le pouvoir d'achat, l'éducation et la santé font partie de ses priorités.
un paquet de mesures sociales pour l'été. Il promet également un retour au calme et à la concorde dans le pays. On l'a déjà vu comme ça, Emmanuel Macron ?
C'est vrai que c'est un peu le Macron nouveau est arrivé, là.
Le Macron 2.
Le Macron 2. Ça vient de sortir. En fait, non. Depuis les Gilets jaunes, il avait cette volonté de descendre au peuple, d'utiliser la carte des territoires, des élus locaux... et de jouer la proximité. Mais il ne pouvait pas s'empêcher, chasser le naturel et revient au galop, il ne pouvait pas s'empêcher de faire la leçon, de rejouer son oral de l'ENA pendant 7 heures d'affilée, etc., et d'essayer de convaincre. Là, ce qui peut être différent, c'est qu'il parle beaucoup moins et qu'il écoute davantage. Donc, en fait, c'est une petite séquence qui a cette signification-là, c'est-à-dire, c'est le Macron nouveau, l'élection est terminée, le débat va commencer, puisqu'il nous a promis un débat permanent dans un endroit qui est vraiment rural. Enfin, c'est la France rurale, c'est ses 3500 habitants. En plus, il y a une attache locale. Je crois que sa grand-mère, qu'il affectionne particulièrement,
il est effectivement allé se recueillir sur sa tombe.
Recueillir sur sa tombe. Voilà, donc il n'est pas en terrain hostile, mais il montre ce côté loin de Paris, loin de l'arrogance, loin de la déconnexion, etc.
Oui, mais alors est-ce que c'est vraiment lui ou c'est parce qu'on a les législatives qui arrivent ?
Non, mais bien sûr. De toute façon, son Premier ministre Castex, c'était rigoureusement la même chose. C'est un élu de Prades. Alors, c'est pas les Hautes-Pyrénées, c'est les Pyrénées orientales, mais c'est aussi un techno, c'est aussi un haut fonctionnaire et on a bien vu le décalage. Donc, ça donne des airs d'eux. Mais c'est pas tellement, finalement, pour critiquer cette posture. Elle est presque indispensable. Là, c'est plutôt un mode pause par rapport à ce qu'il va faire avant. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait ? Il est en train de gagner du temps. Il nous a annoncé qu'il n'allait pas renouveler son Premier ministre, il n'allait pas renouveler le gouvernement tout de suite. Il prend du temps. Alors pourquoi il prend du temps ? C'est tactique, c'est vraiment tactique. C'est parce qu'il sait que plus le temps passe et plus son opposition se divise. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on voit ? Le RN et Reconquête se bouffe le nez. On voit le PS, les écolos et LFI se déchirer. Et donc, le temps joue pour lui. Troisième commentaire très simple, c'est qu'on voit bien quand même que la tonalité est plutôt à gauche, qu'il redoute davantage finalement d'avoir une opposition de gauche forte, parce qu'il peut y avoir la rue derrière, parce qu'il va essayer de passer ensuite ses réformes au forceps et que ça pourrait déboucher sur des mouvements sociaux. Il redoute davantage cette opposition-là qu'une opposition qui pourrait le faire passer, lui, pour le chevalier blanc de la démocratie, contre l'infâme, contre l'extrême droite, les lépreux, etc., etc. Et il sait par ailleurs que, compte tenu des désistements qu'il peut y avoir au deuxième tour, avec trois candidats qui se maintiendraient au deuxième tour de législative, il aura plus de chances d'avoir une opposition forte du côté de LFI ou de LFI et de ses alliés que du côté du RN.
Comment vous analysez, vous, Guillaume Perrault, cette volonté de rester finalement, entre guillemets, à portée de baffe des Français ?
C'est une campagne législative qui commence. Une majorité absolue des députés macronistes, ça ne va pas de soi. Pourquoi ? Parce que tout le monde a l'air de considérer que c'est joué d'avance, parce qu'on est dans l'idée que maintenant les législatives sont une élection de confirmation, de simple confirmation de l'élection présidentielle. Ça s'est souvent vérifié. Mais il y a un contre-exemple. En 88, Mitterrand est réélu dans un fauteuil. Il écrase Chirac, il fait 54% des voix. Il n'a pas la majorité absolue des sièges pour le PS aux législatives de juin. Il a juste une majorité relative. Il doit se contenter d'une majorité relative et ça va rendre plus complexe le gouvernement de la France pour lui dans les 5 ans qui ont suivi. Et il a fallu que ses premiers ministres successifs, Rocard le premier d'entre eux, négocient une fois avec les centristes, une fois avec les communistes et s'assurent d'une majorité qui changeait en fait sur chacun des projets de loi. Alors bien sûr, il y a des armes dans la Constitution pour faire face en pareil cas. Mais enfin, c'est quand même inconfortable. Deuxième élément. Surtout au début d'un mandat. En effet, et après une campagne où quand même sa personne a suscité beaucoup d'animosité dans une partie de l'opinion. Deuxième observation, qu'est-ce qui peut empêcher cette majorité absolue ? Si vous prenez des décisions impopulaires, vous prenez un risque. Donc évidemment, il va repousser toutes les décisions impopulaires après les législatives, ça va de soi. Rappelons-nous que Sarkozy, en 2007, a perdu des députés, des dizaines de députés UMP, sur un simple débat télévisé entre Fabius et Borloo sur la TVA, où Fabius a réussi à allumer Borloo, à le mettre en difficulté et à laisser planer le doute sur les intentions de Sarkozy sur une baisse de la TVA. Ça a suffi à ce qu'il y ait un plongeon tout de suite dans les intentions de vote en faveur de l'UMP. Donc,
des décisions impopulaires, vous les repoussez et vous essayez en effet d'être le plus aimable, le plus consensuel, le plus à l'écoute, le plus dans la posture de la proximité. C'est ce que fait le président de nouveau en campagne, qu'on vient de voir.
Merci Guillaume Perrault d'avoir participé à cette matinale week-end sur CNews et Europe 1. Guillaume Bigot, vous allez rester avec nous, on va poursuivre avec toute l'actualité sur CNews et sur Europe 1, vous retrouvez dans un instant Frédéric Taddeï. Bon samedi et à tout de suite.
Merci Anthony Favalli, on vous retrouve demain et on accueille effectivement Frédéric Taddeï. Bonjour Frédéric, c'est arrivé cette semaine au programme aujourd'hui.
Bonjour Lionel Gougelot, quel Premier ministre pour Emmanuel Macron et pourquoi faire? Je reçois l'historien Arnaud Tessier. Quel armement lourd l'Occident va-t-il livrer à l'Ukraine et pourquoi faire? On va voir ça avec Léo Péria-Peigné. Et qu'est-ce que c'est l'Urbex, le nouveau mouvement qui consiste à vous introduire illégalement sur des sites en ruine ou abandonnés et pourquoi faire? C'est Nicolas Funstadt qui va nous l'expliquer.
A tout de suite Frédéric, dans un instant sur Europe 1, toute l'info, le journal de 9h.